Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Il y a des objets si familiers qu'on finit par ne plus les voir. La glace est de cela. Elle craque sous les pas, elle fond dans un verre, elle recouvre les paysages d'hiver. Elle semble simple, presque évidente. Et pourtant, au cœur du XXe siècle, les physiciens découvrent que cette matière banale cache une énigme profonde. Une énigme qui touche à la nature même de l'ordre et du désordre. Car comprendre la glace, ce n'est pas seulement comprendre comment l'eau se solidifie, c'est se demander ce que signifie être ordonné, ce que signifie être figé. Au début du XXe siècle, la glace est encore un mystère tranquille. On connaît ses formes, ses usages, ses dangers, on sait qu'elle est faite d'eau, et cela semble suffire. Mais la science entre alors dans une ère nouvelle, celle où on commence à voir l'invisible. Avec la diffraction des rayons X, une porte s'ouvre. Pour la première fois, il devient possible de lire l'intérieur des cristaux comme on déchiffrerait une architecture secrète. Les solides cessent d'être opaques, ils deviennent des structures. C'est dans ce contexte que William Henry Bragg et William Lawrence Bragg, le père et le fils, s'attaquent à la glace. Leur travail est d'une sobriété exemplaire. Ils ne cherchent pas la poésie, ils cherchent l'ordre. Et ce qu'ils découvrent est déjà une forme de beauté. Les atomes d'oxygène de la glace s'organisent selon un réseau hexagonal régulier répété à l'infini. La glace révèle alors sa charpente. Elle n'est pas amorphe, elle n'est pas chaotique, elle est construite. Chaque oxygène trouve sa place, chaque distance est mesurée, chaque angle obéit à une loi. Le flocon de neige, avec ses 6 branches, n'est plus une fantaisie. Il est l'expression visible d'un ordre microscopique. À ce stade, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Bon, la science aime les structures claires, les modèles fermés, les réponses définitives, mais la glace résiste à cette tentation. Elle accepte d'être comprise à condition de ne pas être simplifiée. Car une question demeure insistante et presque dérangeante. Que deviennent les hydrogènes ? Les hydrogènes sont légers, trop légers presque, les rayons X ne les perçoivent pas trop bien. Et pourtant, ce sont eux qui lient les molécules d'eau entre elles, qui dessinent les ponts invisibles de la glace. Dans les années 30, John Desmond Bernal et Ralph Fowler s'arrêtent sur ce détail que l'on aurait pu négliger. Ils comprennent que, contrairement aux oxygènes, les hydrogènes ne sont pas assignés à une place unique. Ils obéissent à des règles, certes, mais ces règles laissent place à plusieurs arrangements possibles. La glace apparaît alors sous un jour nouveau. Elle est ordonnée mais pas rigide. Elle est régulière mais pas unique. À l'intérieur du cristal, il existe une multitude de manières d'être conforme aux contraintes locales. Le même cristal peut être réalisé d'une infinité de façons différentes. Ce constat est plus qu'une subtilité technique. Il fissure une idée ancienne, celle selon laquelle un cristal serait l'emblème absolu de l'ordre. La glace montre que l'ordre peut être compatible avec une forme de liberté. Ce n'est pas un désordre grossier ni un chaos, c'est un désordre discret, respectueux des règles, mais presque élégant. Un désordre qui ne se voit pas, mais qui existe quand même. C'est Linus Pauling qui donne à cette idée une profondeur ultime. En 1935, il formalise ce que l'on appelle désormais les règles de la glace. Elles sont simples, presque triviales. Autour de chaque oxygène, deux hydrogènes sont proches, deux autres plus éloignés. Mais ces règles n'imposent pas une configuration unique. Dans cette liberté microscopique, Pauling tire une conséquence stupéfiante. La glace possède une entropie résiduelle. Même lorsque la température tend vers le zéro absolu, même lorsque tout mouvement thermique semble s'éteindre, il subsiste une multitude d'états possibles. La glace ne se fige jamais complètement. Cette idée a quelque chose de troublant. Elle contredit l'intuition naïve selon laquelle le froid absolu conduirait à l'ordre parfait. Même au cœur du gel, même dans l'immobilité apparente, il reste un choix. La glace conserve une mémoire de possibilités. Il est difficile de ne pas y voir plus qu'un simple résultat de physique. La glace nous dit que l'ordre n'est pas nécessairement synonyme de rigidité, que même les formes les plus régulières peuvent abriter une indétermination intime. À Noël, lorsque la neige tombe ou que nous l'imaginons tomber, nous voyons une matière paisible, silencieuse. Nous croyons voir l'immobilité, mais la science nous apprend autre chose. Sous cette apparente fixité, la glace hésite encore. Ce que Bragg, Bernal, Fowler et Pauling ont révélé, ce n'est pas seulement la structure d'un cristal, c'est une manière de penser la matière qui renonce aux oppositions trop simples. Ordre et désordre ne sont pas des contraires absolus. Ils peuvent coexister, s'entrelacer, se soutenir mutuellement. La glace n'est ni parfaitement ordonnée, ni véritablement chaotique. Elle est quelque part entre les deux, comme beaucoup de choses essentielles. Il est frappant de constater que cette découverte n'a rien de spectaculaire. Elle ne se prête pas à des images frappantes ni à des slogans. Elle exige du temps, de l'attention, une certaine lenteur, comme la neige elle-même. La science du XXe siècle, dans ce cas précis, n'est pas conquérante. Elle est plus méditative. Elle observe, elle calcule, elle accepte que la réponse soit plus subtile que la question. La glace reste froide, elle reste dure, mais elle n'est plus simple et c'est précisément ce qui la rend désormais encore plus fascinante.
Vous avez entendu Lux Aeterna, composé par Giorgi Ligeti en 1966. Je suis sûr que vous avez pensé à la scène finale du film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.